filles.
Une langue, le français, mais des littératures, singulier pluriel, singulière pluriel. Si les prix littéraires se comptent par milliers en France, un seul a l'ambition de regrouper des écrivains d'expression française venant des cinq continents et d'en choisir un pour le mettre en lumière. Et cette année, le lauréat est... Léger suspense, il faut rappeler que nous sommes à Yerevan, dans la capitale arménienne, pour le sommet de la francophonie, où il est question de politique, d'économie, d'éducation et de littérature, avec notamment un salon du livre et cette remise du prix des cinq continents au théâtre Arnaud Babadjanian, où nous sommes. Alors, qui, pour succéder au Tunisien Yamen Manaï, je vous donne la parole, Lionel Trouillot, vous étiez dans ce jury prestigieux aux côtés de quelques Leclésio, Abderrahman Ouaberi, Vénus Kouris Gata, Lise Bisonnette et quelques autres. À vous de lever le suspense.
Jean-Marc Turine pour son roman « La théorie des fleuves ».
Et magie de la radio, c'était un peu préparé, magie de la radio, Jean-Marc Turine est avec nous ici, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fait le voyage de Bruxelles à Yerevan, nous allons donc parler de votre livre « La Théo des fleuves », l'histoire de cette vieille tzigane presque aveugle qu'un jeune homme promène en chaise roulante et qui raconte sa vie, le siècle, le racisme, mais aussi la beauté du monde avec une énergie, un enchantement que nous allons essayer de vous faire partager. Alors au-delà de ce livre, nous parlerons aussi de cette langue en partage avec vous, Lionel Trouillot, dont un nouveau roman vient de sortir, et avec vous, Monique Ilboudo, bonjour. De Ouagadougou à Yerevan, je suis curieux de vous entendre. Nous retrouverons aussi, comme dans la danse des mots, Lucie Bouteloup et sa puce à l'oreille avec une expression très arménienne, ton œil dans la lumière. Mais on en parlera à la fin de l'émission. D'abord, je voudrais vous féliciter, vous, membres du jury, d'habitude on félicite l'auteur, mais j'aimerais vous féliciter, vous, membres du jury, d'avoir choisi ce livre pour le prix des cinq continents. Quel a été l'élément qui l'a emporté, Lionel Trouillot ?
Déjà, c'est un faux roman. Si l'on prend le roman comme quelque chose qui est dans une sorte de structure linéaire, ce n'est pas du tout le cas. C'est un livre dans lequel la question du temps est traitée de manière, je dirais, très poétique. C'est un livre dans la langue aussi. C'est très différent de romans ordinaires qui prétendent raconter une histoire qui ne pense pas du tout la phrase. Dans ce livre, chaque phrase tient toute seule. Chaque phrase est un élément artistique en soi. Et ça, ça m'a plu. Et puis, sur la thématique, c'est vrai qu'il y a tout le parcours d'une femme, il y a déplacement, il y a souffrance. Mais ces souffrances, le texte ne réduit pas l'individu à ses souffrances. Et en plus, dans ces souffrances, on voit quand même l'injustice. On voit quand même qu'il y a des choses qui se font et qui ne sont pas justes.
Alors en effet, le roman parle du génocide tzigane. Le prix d'ailleurs est remis dans un pays, chez un peuple où la mémoire du génocide, en l'occurrence le génocide arménien, est très présent. Et vous, Monique Ilboudo, vous avez travaillé sur le génocide rwandais. Donc est-ce que dans ce livre de Jean-Marc Turine, vous avez senti une résonance ?
Oui, bien sûr. Et non pas seulement avec le génocide rwandais, simplement en tant que noir, toutes les discriminations que subissent encore les noirs à travers le monde, et en tant que femme, parce que le sort qui lui est fait dans sa propre communauté aussi n'est pas enviable. Voilà, donc tout ça m'a ému et a fait que, effectivement, ça m'a vraiment séduit.
Mais est-ce que la littérature est la possibilité de la mémoire pour vous ?
Oui. Bien sûr. Au Rwanda, quand nous sommes partis, nous avions dit « plus jamais ça », etc. Mais c'est pour écrire, pour qu'on se souvienne. Bon, c'est vrai que ça n'empêche, quelquefois on est découragé parce que ça recommence. Mais n'empêche que écrire, documenter ce qui s'est passé, et puis l'émotion. Je dis toujours que j'ai été, moi, sensibilisée à la Shoah par un roman. Au nom de tous les miens. Quand j'étais adolescente et que j'ai lu ce livre-là, c'est là où j'ai voulu en savoir plus. Donc vous voyez que la littérature, par l'émotion, par les mots, peut amener à réfléchir sur des thèmes comme celui-là.
Jean-Marc Turine, est-ce que le génocide tzigane, il faut préciser que vous n'êtes pas du tout tzigane, hein, à ma connaissance, a été le point de départ, le moteur de ce livre, ou est-ce que ça a été peut-être plus finement une rencontre, parce que ce livre est dédié à une femme que vous avez rencontrée et qui était une survivante, qui est peut-être encore aujourd'hui une survivante de la Shoah?
Non, pas de la Shoah, du Samoudaripen. Le génocide de tziganes, ça s'appelle le Samoudaripen. Mais oui, effectivement, le génocide des tziganes m'a d'une certaine façon guidé, puisque c'est un génocide qui n'est pas reconnu aujourd'hui. Seuls les États-Unis, la Suisse et l'Allemagne. Puis depuis 10 ans, il n'y a que la Roumanie. Mais sinon, en Europe, c'est un génocide qui n'est pas reconnu. Mmh. Ce qui signifie aussi, c'est que les Rwandais, les Juifs, les Arméniens, il y a une mémoire maintenant collective. On ne peut plus dire que les Arméniens ceci, les Juifs cela. Tandis que les Tziganes, on continue à dire. On peut dire ce qu'on veut des Tziganes. Et en ce sens, ils sont restés des citoyens de seconde zone en Europe. Et en ce sens-là, je vais rappeler une phrase de Václav Havel qui, je trouve, est tout à fait lumineuse. C'est que lorsqu'il était président de la République de Tchécoslovaquie, à la fin d'un sommet européen qui réunissait tous les chefs d'État et les chefs de gouvernement d'Europe, il a eu cette phrase: l'avenir démocratique de l'Europe dépendra du sort qui sera réservé aux Tziganes. Donc c'était en 99 ou en 2000, 18 ans plus tard, qu'on en est absolument au même point.
Donc c'est un livre politique, d'une certaine façon.
Ah oui, c'est un livre politique. J'aime bien quand Lionel Trouillot parle de poésie, parce que je pense qu'il y en a aussi. Mais c'est vrai que c'est un... Enfin, moi, je ne conçois pas l'écriture sans avoir un côté politique. C'est-à-dire que, personnellement, j'ai rien à dire. Si je peux dire quelque chose, c'est parce qu'il y a la vie autour de moi. Et que c'est à fonction de cette vie autour de moi que je peux écrire, parce que j'ai cette capacité. Je suis incapable de peindre, je ne dessine pas, je ne fais pas de la musique, je peux un peu écrire. Donc j'écris au nom des autres aussi, dont, entre autres, les Tziganes.
Et le livre, votre livre, Jean-Marc Turine, commence ainsi.
Tel un fleuve, traçant et effaçant ce qu'il écrit dans un même écoulement, les mots affleurent et s'évanouissent dans l'âme de la vieille Théodora. Les a-t-elle entendus? Les a-t-elle inventés?
Les cieux sont nus et vides de toute éternité. Nus et vides.
Les années ont consumé sa mémoire devenue particule de poussière. À l'approche de la mort, le feu de son corps s'éteint sans brusquerie, dans le calme étal d'une sagesse sans illusion.
La Théo des fleuves, c'est donc votre roman, Jean-Marc Turine, mais ce que l'on vient d'entendre, c'est une fiction radiophonique qui a été réalisée par France Culture. Il y a donc eu d'abord une version radio. C'est très étrange, ça.
Ce qui s'est passé, c'est que j'avais écrit un roman qui s'appelait déjà La Théo des fleuves et qui a été refusé, je crois, par une vingtaine de maisons d'édition. Je me suis adressé à France Culture et ils m'ont dit « Ok, ça va ». Et une des femmes qui gère la fiction, qui s'appelle Caroline Wasana, m'a fortement aidé. J'avais d'abord écrit un feuilleton de 10 fois 30 minutes et c'est elle qui, avec conviction, m'a convaincu que 5 épisodes pouvaient largement suffire. Et donc ça a été réalisé et ce qu'on vient d'entendre là, c'est la voix de cette magnifique Emmanuelle Riva. Bon, après ça, j'ai complètement oublié le livre. Pendant certainement 2-3 ans, je n'y ai plus pensé. Il y a un beau jour, je l'ai repris et ça a donné ça, voilà.
Mais d'une certaine façon, c'est plutôt pas mal parce que c'est un livre de paroles dans une tradition orale qui est importante pour la culture tzigane.
Mais absolument. C'est aussi une sorte d'hommage à la transmission orale. Parce que chez ces jeunes tziganes qui sont... Bon, je prenais l'exemple de la Roumanie et de la Hongrie, effectivement, c'est... Ils vont pas à l'école. Donc les trois quarts même des jeunes ne lisent pas ou très mal, n'écrivent pas. Et donc c'est grâce à la grand-mère qu'ils apprennent leur histoire. Aujourd'hui, tous nos jeunes là, qui sont avec leur smartphone sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, etc., ils sont dans une immédiateté de l'histoire qui leur permet sans doute de perdre, ou qui cause sans doute chez eux une perte de ceux qu'ils ont été, ne fût-ce que leurs parents ou leurs grands-parents. Par contre, là, c'est un peu comme un conte en Afrique, c'est dire oui, la tradition orale est absolument, et la transmission orale est une chose tout à fait fondamentale pour la culture tzigane.
Et on la voit tout à fait, elle est sur sa chaise roulante, oui, souvent sous un arbre, et elle parle, elle est aveugle, elle a le regard bleu pétrole, mais on imagine que ce regard c'est un peu opacifié, comme ça qu'elle ne sait plus exactement ce qu'elle regarde, et elle raconte le monde, elle raconte sa vie, une vie dure, hein. Elle a été mariée de force, elle a été finalement violée alors qu'elle était amoureuse d'un jeune accordéoniste. Elle décide d'apprendre à lire et à écrire pour s'émanciper. Ça, c'est important, non? Et elle est tzigane, mais elle pourrait être africaine. Burkinabé, africaine.
C'est vrai. Et c'est pourquoi je disais que le destin de cette femme m'a interpellée tout de suite. Mais je voudrais dire un mot aussi sur la langue, parce que c'est vrai que j'ai trouvé la langue originale de ce roman. Et peut-être après avoir lu, au moment de la délibération, on a parlé donc de ces émissions-là. Et je me suis dit, ah, c'est peut-être ça. Parce que c'est vrai que ça rappelle plus une oralité. Ça traduit vraiment quelqu'un qui est en train de compter. Et compter en Afrique, au Burkina, c'est encore cela. C'est peut-être ça qui m'a aussi interpellée dans l'écriture, dans la langue qu'a utilisée donc Jean-Marc Turin.
Donc elle apprend à lire, elle apprend à écrire. Et en même temps, les épreuves sont très nombreuses. Elle vit des pogroms, elle vit la déportation, elle est internée vers la fin de sa vie. Et en même temps, mais c'est ce que vous disiez, Lionel Trouillot, elle n'est jamais dans une position victimaire. C'est une femme forte. Alors, est-ce que c'est la langue qui sublime ce destin, ou est-ce que c'est cette personne qui est une femme forte?
Non, je pense que j'ai voulu qu'une femme soit très forte. C'est elle. Parce que, en général, quand même, on le sait, qu'en temps de guerre, etc., c'est le rôle des femmes par rapport à... Parce que ce sont les hommes qui combattent et les femmes sont là pour la famille et qui aident aussi les hommes qui vont au combat. Mais là, c'est une femme, effectivement, qui a un caractère, comme on dit, qui sait ce qu'elle veut, même si elle était à l'école que très peu. Puis finalement, elle y va toute seule. Elle va dans les camps de concentration et elle a vécu ce qu'elle a vécu dans les camps de concentration. Elle s'en sort et puis son enfant, sa petite fille meurt quand même dans les camps de concentration. Et je pense que, oui, il y a quelque chose d'une résurrection pour cette femme. Mais tout au long de sa vie, c'est une résurrection perpétuelle. Ce n'est pas que parce qu'elle est sortie du camp de concentration. C'est toute sa vie qui est comme ça.
Vous avez eu un modèle pour écrire cette femme Théodora, qu'on appelle la Théo?
Oui, relativement. C'est-à-dire que j'ai rencontré cette femme dont vous avez parlé, Katharina Krasznay, qui est une Rome hongroise que j'ai rencontrée à Strasbourg. Mais elle n'a jamais voulu me parler de la déportation. J'ai su qu'elle était rescapée des camps d'Auschwitz, de Birkenau exactement. Mais je n'ai jamais pu lui parler. Et alors j'ai rencontré une autre dame qui s'appelle Pisla Hemstetter. Enfin, elle est morte il y a 2 ans, qui était une tzigane de Strasbourg, une femme magnifique, qui était une conteuse, mais qui savait ni lire ni écrire. Et elle m'a beaucoup parlé de sa vie, de son enfance, etc., de son adolescence. Parce qu'ils vivaient dans des roulottes, alors les enfants couraient derrière la roulotte, etc. Et puis, il y avait des gens, lorsqu'ils traversaient des villages, qui envoyaient des pierres, etc. Enfin, bon, je connais un peu l'histoire quand même des tziganes ou des déportations des juifs, etc. Et donc, j'ai imaginé que... J'ai jamais prononcé le mot SS, j'ai toujours parlé des dieux noirs. Les dieux noirs, c'est les dieux de la mort, effectivement, qui se prenaient pour les sauveurs du monde. Et en même temps, c'était les dieux noirs, les SS. Oui, mais ça... Si j'avais mis SS, ça me semblait réducteur. Les dieux noirs, c'est terrible, c'est plus que ça, c'est Pol Pot, c'est ce que se fait aujourd'hui l'Arabie Saoudite au Yémen, c'est l'armement que la France vend à l'Arabie Saoudite pour aller bombarder le Yémen, c'est les armes américaines, etc. Donc ces dieux noirs, c'est tout ça, c'est tout ce commerce des armes aussi.
Parce que c'est un récit qui est presque contemporain, elle a traversé le siècle, mais d'ailleurs on ne sait pas exactement dans quel pays elle vit, et en fait on pourrait le transposer aujourd'hui, peut-être que c'est une héroïne du 21e siècle, malheureusement.
Oui, c'est peut-être, je pense que c'est une héroïne comme beaucoup de gens qui ont survécu à la Shoah ou au Samoudari Pen. Oui, ça, c'est une héroïne. Et par exemple, je suis aussi... Quand Aladdin avec...
Et donc l'amoureux de
oui,
Théodora,
oui.
Enfin, l'homme
mais part avec Naoum. Ils sont quand même en Palestine. C'est très clair que c'est la Palestine. Un enfant tué dans les bras d'une mère, c'est en Palestine que ça se passe.
Donc c'est un roman palestinien aussi.
Oh, ben évidemment. La situation en Palestine est une catastrophe. Mais voilà, il y a de la catastrophe partout dans le monde.
Jean-Marc Turin, retrouvons Emmanuel Riva et Théodora. Les miliciens viennent de passer, Théodora est blessée, l'enfant est violé, des hommes sont tués et les instruments des musiciens sont brûlés, puis le silence.
Lorsque les cendres seront refroidies, On retrouvera les cordes métalliques des instruments et les boulets qui avaient appartenu à l'arrière-grand-père de Théodora.
Pourquoi ? Pour nous, l'exode a commencé à travers les forêts, les campagnes. Pendant 10 jours de marche vers une destination inconnue, je me récitais les poèmes. Les mots bourdonnaient dans ma tête. Je soignais la blessure sur mon sein en y appliquant de l'argile. Je n'avais plus la force de porter ma petite Carmen dans les bras. J'avais 22 ans lorsque le pouvoir a organisé les premières déportations massives vers des terres de marécage.
Théodora arrache les mots à la racine des désirs, écrivez-vous, Jean-Marc Turine. J'ai l'impression que c'est aussi un peu votre cas, parce que Lionel Trouillot parlait de cette écriture que moi je dirais poétique, bien sûr, mais parfois lyrique, chatoyante, sensuelle, une écriture qui est habitée. Et je trouve ça très beau ce que vous dites, Lionel Trouillot, quand vous dites « chaque phrase est pensée ». Est-ce que vous l'écrivez comme cela, en pensant, en pesant chaque phrase ?
Non, je travaille beaucoup, j'écris très lentement. Mais quand ça vient, c'est comme ça, mais je n'ai pas d'horaire de travail, je suis pas assez structuré pour ça, quoi.
Que signifie francophonie ? Nous sommes au sommet de la francophonie à Erevan. Que signifie francophonie pour vous ?
La francophonie, c'est une communauté, je dirais, de fraternité. De fraternité parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que sinon on revient à l'idée que la langue française, elle est celle de la France et celle de l'Académie française, et c'est absurde. Ou bien alors on retourne 100 ans en arrière. Donc la francophonie, c'est effectivement, c'est Lionel qui vient d'Haïti, c'est Monique qui vient du Burkina, et puis c'est tous les autres qui viennent de partout dans le monde où on parle français. C'est cette richesse-là qu'il faut retrouver. Par exemple, dans le roman, il y a une phrase, c'est « on s'en fout du remémoirement de la vieille ». Le remémoirement, c'est un mot que j'ai trouvé dans un livre de Bruno Soussoui, un Canadien. Ce mot remémoirement n'existe pas, mais il est superbe. C'était un néologisme absolument magnifique. Et donc c'est ça que la francophonie, c'est entre autres ça, c'est cette capacité que ce type là-bas au Canada a inventé ce mot.
Mais est-ce que ça fait une littérature commune ? Je veux vous entendre, Lionel Trouillot et vous, Monique Ilboudeau.
Je ne dirais pas que ça fait une littérature commune. Je ne pense pas que la littérature soit commune par les langues. Enfin, la littérature. Qu'elle vienne de la Belgique ou qu'elle vienne d'Haïti, elle peut parler à quelqu'un du Burkina ou elle peut parler à quelqu'un du Japon. Et cela, ce n'est pas le pouvoir de la langue, c'est le pouvoir du texte. C'est le pouvoir du langage. Et donc, moi, je ne crois pas à une sorte de communauté des écrivains de langue française en termes d'une thématique commune ou de traits humains qui les rassembleraient. Je n'y crois pas.
Monique Ibuldo.
Oui, je pense pareil, mais je me dis que l'émotion, que je puisse lire quelque chose qui vient de si loin, qui aurait pu me paraître étranger, mais que je m'y retrouve, comme ce livre La Théo des Fleuves, ou comme d'autres venant de très loin de mon univers, de mon ère culturelle, mais que je m'y retrouve. Et ça arrive. Bon, ça peut aussi être en anglais, bien sûr. Donc, c'est moins la langue que vraiment ce qui reste après que j'ai lu. C'est vraiment la substance et l'humanité que j'y retrouve.
Mais est-ce que la langue, et en l'occurrence le français, puisque c'est cette langue qui nous réunit aujourd'hui, Erevan, autour de ces micros, est-ce que la langue, le français, est une capacité de faire face à la mondialisation ? Est-ce qu'on est, d'une certaine façon, obligé de se serrer les coudes ou d'écrire en commun ou de se parler, tout simplement ?
De se parler. Bon, mais vous voyez, nous sommes... Aujourd'hui, pendant que nous parlons, il y a la francophonie politique. Ils sont en train de discuter. Je ne pense même pas que ce soit aussi harmonieux que chez nous. Voilà.
Certainement pas, j'ai pu comprendre.
Voilà. Bon, mais que ce soit dans la francophonie ou en dehors, aujourd'hui, les problématiques sont telles qu'il faut qu'on se parle et il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, à être libre ensemble, comme le dit le slogan. Parce que les questions de changement climatique, d'environnement, personne ne peut se cloîtrer chez lui, personne ne peut s'en sortir tout seul. Les questions de migration, il faut travailler à ce que chacun soit bien chez lui, sinon bon, on ne peut pas faire autrement.
Mais si on parle littérature, est-ce que la francophonie, le problème de la francophonie n'est peut-être pas aussi la diffusion des œuvres?
Parce que oui, finalement, certainement.
On n'a pas le même accès aux œuvres quand on vit en Belgique, comme vous, Jean-Marc Périne, moi à Paris, vous à Ouaga et vous à Port-au-Prince.
Ce n'est pas seulement les œuvres, il y a une distribution inégale des œuvres. Et à 1h40 en d'avion, pour qu'un livre martiniquais, écrit par un martiniquais, arrive chez moi à Port-au-Prince, il faut qu'il passe par Paris. On est dans quelque chose de complètement fou. Donc il y a cette distribution inégale des œuvres, et je crois que la littérature est aussi faite pour parler des gens. Vous avez dit quelque chose de fabuleux pour moi tout à l'heure. C'est avec la vie autour de moi que je fais des livres, c'est ce que vous avez dit, que je fais du texte. Et donc les textes qui sont produits dans des communautés francophones, il serait bien que ces textes puissent circuler dans toutes les communautés francophones pour que nous soyons au courant de ce qui se fait dans tous ces petits mondes, partageant avec nous cet usage de la langue française. Donc ceci, c'est quelque chose d'important, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre du politique plus que de l'ordre du littéraire.
Absolument.
Puisqu'il faut mettre toutes les littératures à égalité. Et pour les mettre à égalité, il faut peut-être aussi sortir de ce concept de francophonie ou en faire un usage très précis, parce que souvent quand on dit francophonie, il y a une sorte de hiérarchisation. Il y aurait une littérature du centre qui serait la littérature française, et il y aurait une sorte de littérature quelque peu périphérique qui serait la littérature francophone.
Et parfois la Belgique se trouve dans cette périphérie, parce que finalement vous publiez chez un petit éditeur qui s'appelle Sperluette, parce que j'imagine les éditeurs français vous ont refusé.
Je n'ai même plus été chercher. Je veux dire, je n'ai plus cherché, parce que c'est pas la peine quoi, d'avoir des refus comme si c'était des pontifs, quoi. Alors bon, si les papes sont les papes, eh bien, il reste les papes. Bon, alors je suis très content d'être chez Sperluette, et aujourd'hui Sperluette est très contente parce que j'ai le prix. Donc ça fait boule de neige comme ça, et on est tous heureux, quoi.
C'est vrai. Alors le français se nourrit de toute une série d'expressions, et dans quelques minutes, c'est notre chronique La Puce à l'oreille, juste après le collectif Metz Bazar.
A smeje pnjeruje moj baluke pre. Mesetete ja petrenda filme je. Mesetete ja petrenda filme je.
km entre Paris et Yerevan, mais un coup de fil suffit parfois à abolir les frontières, où l'on retrouve depuis les studios de RFI à Issy-les-Moulineaux, où vit une très forte communauté arménienne, Lucie Bouteloup et sa fameuse chronique.
La puce à l'oreille.
Pascal, première semaine pour votre nouvelle émission, mais aussi première puce dans De Vive Voix. L'aventure commence bien, surtout pour vous qui êtes là-bas en Arménie. J'ai envie de vous dire, Hatchkut Louis, mon cher Pascal, vous m'avez bien entendu, Hatchkut Louis, qu'on pourrait traduire littéralement par ton œil dans la lumière. Une puce arménienne donc avec cette expression qui fait l'unanimité tant dans la diaspora qu'au pays. Et pour nous en parler, eh bien j'ai le plaisir de recevoir Mélanie Kelejian qui est enseignante d'arménien à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Bonjour Madame Kelejian.
Bonjour.
Alors vous allez tout nous dire sur cette expression dans quelques instants, mais avant je vous propose d'aller écouter les propositions de la classe de CM1-CM2 de Madame Sarah Dotel à l'école arménienne Tarmanchkatz de Issy-les-Moulineaux. Tendez l'oreille.
Peut-être que ça veut dire bonne route si on a un long voyage, pour que la lumière elle nous aide, qu'on fasse pas d'accident.
Que Dieu soit toujours avec toi, parce que je crois qu'en Arménien, quand on dit ton œil dans la lumière, ça veut dire qu'on se protège du mal.
On est un peu partout, on voit à peu près toute la terre, parce qu'on voyage beaucoup.
Qu'on a des beaux yeux, nos yeux ils sont rayonnants.
Viser le plus haut, parce que en arménien, lumière c'est plutôt être une star.
Ça veut peut-être dire avoir de la chance.
Qu'on voit les choses bien, par exemple, pas voir des choses de guerre ou des choses comme ça.
Qu'on n'a pas besoin de lunettes et qu'on voit très bien.
Ça veut peut-être dire que je pense tout le temps à toi.
Bah, dire ça à une personne qu'on aime bien et du coup, bah, qu'on veut pas l'oublier.
C'est le champion, parce que quand quelqu'un gagne une Coupe du Monde, la lumière, elle vient sur lui.
Ça veut peut-être dire bonne chance pour quelque chose.
Alors, Madame Kelejian, vous avez entendu toutes les propositions de cette classe de CM1, CM2. Ils ont plein d'idées. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
J'en ai pensé que certains n'étaient pas loin du compte, qu'ils ont bien compris qu'il s'agissait de quelque chose de très positif. Quelquefois, ils disaient que fallait souhaiter quelque chose à quelqu'un. Donc, c'est ça, en fait. C'est une formule, c'est une tournure idiomatique figée, qui est presque une formule de politesse parce que elle se dit à chaque fois que il se passe quelque chose de positif, un événement heureux.
Est-ce que vous voulez bien nous redire l'expression en arménien? Ton œil dans la lumière, c'est
Achkut Louis.
Achkut Louis.
Donc ça se dit à la naissance d'un enfant, ça se dit pour des fiançailles ou pour un mariage, et dans des temps plus anciens où voyager n'était pas quelque chose de très courant, ça se disait aussi quand quelqu'un rentrait d'un long voyage, d'une longue absence dans son pays, et donc on souhaitait Achkut Louis à ses proches.
C'est des félicitations en quelque sorte.
Donc on peut traduire ça par des félicitations en français, en effet, c'est la traduction la plus approchante. On va voir les gens pour leur dire cette formule lors d'une visite où on prend le café, on se parle et on dit entre autres choses « Achkut Louis ». Que ce qui t'est arrivé de merveilleux, que ça dure, que ça perdure. Et en fait, il y a une réponse.
Que la chance soit avec toi.
Que la chance soit
que la
avec
chance
toi.
Continue à être avec toi, en fait.
Mm-hmm. Et donc l'autre, il peut répondre « Merci beaucoup » ou alors il peut dire « Que la lumière reste avec moi ». Il y a aussi d'autres expressions qui, en fait, lient la lumière et l'œil. Par exemple, je peux dire de quelqu'un qu'il est la lumière de mes yeux.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la chose la plus précieuse, alors?
Voilà, donc c'est quelqu'un qui m'est vraiment très cher. Je peux la qualifier de « Achkis Louis », la lumière de mes yeux.
Comme on dit, je tiens à toi comme à la prunelle de mes yeux.
Mm-hmm.
Et est-ce que cette expression, elle est utilisée dans les territoires avoisinants?
Il y a la même chose en turc, exactement avec les mêmes termes, tout à fait de la même façon, avec les deux mots juxtaposés sans verbe, et puis aussi en persan.
Merci Madame Kelejian. Bon Pascal, j'espère que vous savez quoi me répondre si je vous dis Achkut Louis.
Que la lumière reste avec moi. Mais je pourrais aussi vous dire, Lucie, vous êtes la lumière de mes yeux. Ce sont des très belles expressions. Merci à tous les trois. Je vous ai pas demandé si en Belgique il y avait des expressions similaires. Vous en savez rien. Alors,
comme ça, ça me vient pas à l'esprit. Mais j'ai quelque chose à dire. Il y a un très beau proverbe tzigane. Je bois, je mange, je meurs. Pourquoi régner?
C'est la dernière page du livre. Merci à vous trois, Jean-Marc Turine, La Théo des Fleuves aux éditions Esperluette, Lionel Trouillot, Ne m'appelle pas capitaine chez Actes Sud. Et l'on vous retrouve ce week-end, dimanche, pour être très précis, sur l'antenne de RFI dans l'émission En sol majeur. Monique Ilboudeau, merci aussi. Si loin de ma vie, votre dernier roman est sorti au Serpent à Plumes. De vive voix, programmation Véronique Durand, Guillaume Ploquin à la réalisation. À demain, toujours en direct de Yerevan.